BFM Business, Focus Retail, Frédéric Simotel.
Bonjour et bienvenue dans Focus Retail sur BFM Business. On va parler aujourd'hui d'une marque que vous connaissez tous, Intersport. C'est l'un des grands succès du commerce français hein, sur un marché très concurrentiel. Il y a des grandes chaînes de distribution, tiens, il y a même les grandes marques de sport qui ont leur propre flagship. Eh bien, le personnage que nous recevons aujourd'hui, il en connaît tous les rouages. Ça fait 30 ans qu'il est dans le réseau Intersport. Avec lui, on va parler chaînes de distribution, ancrage local, accessibilité sur les prix, on parlera innovation. Il s'appelle Gérard Leclerc, il est président d'Intersport. Il sera notre invité tout au long de cette émission, avec notre experte aussi qui sera là avec nous tout au long de cette demi-heure, Claire Koralewski, qui est directrice générale de Média Performance, avec qui nous verrons aussi comment les magasins se transforment vraiment leur point de vente. Et puis nous resterons dans le sport avec la start-up qui s'appelle Arbat. C'est une nouvelle forme de club d'athlétisme. Vous découvrirez tout ça ensemble. Et puis vous en avez l'habitude, nous terminons par notre petit tour de l'actualité retail. Focus Retail sur BFM Business, c'est parti.
Focus Retail, l'interview.
Allez, on démarre notre interview avec Gérard Leclerc, président d'Intersport. Bonjour.
Bonjour.
Gérard, merci d'être avec nous et avec moi pour m'accompagner aussi dans cette interview, Claire Koralewski. Bonjour Claire.
Bonjour.
Qui sera notre experte, directrice générale de Média Performance. Gérard, je vais démarrer avec vous. Question un peu générale d'actualité. Tiens, la canicule, ça se passe comment aujourd'hui dans vos magasins? Est-ce que, voyez, il y a moins de fréquentation? Vos collaborateurs, si, comment vous appréhendez un peu tout ça? Parce que visiblement, ça va continuer encore pendant quelques jours.
Oui, bah vous savez, nous chez Intersport, on a l'habitude d'être confrontés au climatique. Hein. L'hiver, il fait froid, il y a de la neige. L'été, il fait chaud, il y a du soleil. Donc, tout va bien pour nous. Bon, effectivement, on observe simplement que la fréquentation des magasins est un peu différente hein, de taille et horaire.
Vous bougez un peu les horaires parfois
ou pas? Non, pas encore. Pas forcément les horaires, mais ça parce que le flux client bouge un petit peu. Mais tout va bien et on est quand même la destination par rapport aux produits saisonniers. Moi, j'aime bien le soleil, j'aime bien la chaleur.
Oui. Alors, autre question qui concerne l'actualité, on vit évidemment, tout le monde, hein, y a un impact des conflits géopolitiques autour du carburant, de la supply chain. Est-ce que vous, ça vous a impacté aujourd'hui chez Intersport?
À date, non. À date, non. On a aussi l'avantage d'être sur un modèle où on s'engage très tôt, hein, puisqu'on passe en commande entre 6 et 9 mois à l'avance. Donc, à date, pas d'alerte. Au contraire, les produits de rentrée sont déjà en entrepôt.
Alors, on va trouver ses maillots de bain, ses masques et ses tubas pour l'été. Exactement. Et puis, pour la rentrée, on retrouvera aussi tout ce dont on a besoin. Alors, on parle beaucoup football en ce moment, comme Coupe du Monde oblige, c'est une passion populaire, mais pour un distributeur comme Intersport, c'est un vrai moteur économique. Alors je sais que vous avez ouvert un pop-up store pour quelques semaines, c'est au Halles, hein, à Paris, le 4 juillet, c'est ça, et puis ça va s'étaler pendant quelques semaines.
C'est déjà ouvert. Bah, Intersport, oui, alors effectivement, la Coupe du Monde, le football, nous sommes la destination football en France, hein, puisque aujourd'hui Intersport revendique cette dimension. Aujourd'hui, c'est 6 chaussures sur 10 qui sont vendues par Intersport. Effectivement, on a cette volonté d'être l'acteur majeur de destination du football en France. C'est historique, c'est lié à notre proximité avec les clubs sportifs qu'on entretient depuis de nombreuses années.
On reparlera justement de proximité dans un instant.
On parlera de proximité. Ok, alors sur le football, tout va bien, les chiffres sont là, l'engagement et l'engouement pour les clients, pour les maillots de l'équipe de France sont présents.
Ouais, donc il y a quand même un petit élan qui est donné par cette Coupe du Monde.
Ouais, il y a toujours un élan et juste pour vous donner un petit benchmark par rapport à l'Euro 2024 par exemple, qui est un événement assez récent, on est à plus 50, plus 60, donc l'engagement est encore plus fort, ce véhicule des valeurs, mais aussi l'engagement de notre pays et c'est très prometteur quand même.
Claire. Oui, alors l'intégration de GoSport a changé la taille et la géographie du réseau Intersport. 3 ans après, pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire que ça vous a apporté, cette acquisition?
Ça nous a apporté. Aujourd'hui, ça me permet d'être présent, d'avoir ce pop-up à Paris, hein, parce qu'effectivement, quand on rachète GoSport, on rachète aux alentours de 80 magasins et notamment une destination région parisienne. Si bien qu'Intersport aujourd'hui, qui est une entreprise qui fait 4 milliards quand même, est présente sur Paris, en région parisienne, et notamment en intramuros. Hein, on a 3 magasins de référence, effectivement le magasin de République, le magasin de la Défense, et le magasin des Halles, où à l'heure actuelle, effectivement, on développe ce pop-up store, au regard de nos clients et de cette fréquentation qui est là.
Alors, vous êtes dans un modèle assez différent. Decathlon, on le sait, a tout misé sur ses marques propres. Vous êtes bien sur l'équilibre, enfin la grande présence et le pari des marques nationales. Aujourd'hui, alors j'aime bien aussi la distinction de votre assortiment local. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette partie-là?
Je crois qu'effectivement, on a un menu différent. On a un menu différent. Je crois que notre force, effectivement, c'est d'être le plus grand sélectionneur des produits de marque internationale, hein, de la pratique sportive, parce que c'est quand même ça, au travers de toutes les grandes marques, hein, quelles qu'elles soient, elles sont présentes chez nous. Et notre volonté, notre métier avant tout, c'est de s'aligner le meilleur de chaque marque, justement, au regard de la pratique sportive et pour servir nos clients. Donc, effectivement, cet ancrage est historique. C'est ce qui a fait la force d'Intersport et sa différence et sa réussite aujourd'hui. Pour revenir sur nos marques propres, effectivement, on développe aussi des marques propres importantes. Je vais en citer une. On peut parler de Nakamura, par exemple, qui est une autre marque de vélo qui représente plus de 70% de nos ventes, qui aujourd'hui est fabriquée et assemblée en France, hein, à Machecoul, sur le territoire de la Loire-Atlantique. C'est 300-400 collaborateurs et on est le premier assembleur de vélos en France sur le territoire. Oui, nos marques propres ont un rôle important. On sait qu'elles doivent s'adapter en fonction du périmètre et des catégories sportives. Et je crois qu'on peut parler aussi de McKinley, sur la partie hivernale. McKinley, qui est une marque propre internationale aussi chez nous, conçue par les équipes internationales au regard de l'exigence des pays nordiques, comme la Norvège, l'Autriche, hein, qui sont très exigeants en termes de technologie et de technicité. Et je crois que c'est ça qui est tout embarqué chez Intersport.
Claire, il y avait une question sur le nombre de magasins aussi pour Gérard.
Oui, ben en fait, aujourd'hui, vous avez désormais près de 1000 magasins et a priori, si j'ai bien compté, un magasin à moins de 20 minutes de chaque Français. Alors, est-ce qu'à l'heure du e-commerce, cette proximité devient un avantage concurrentiel ?
Alors, je crois que vous comptez bien déjà, ça c'est important. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, Intersport, c'est 4 milliards. C'est 1000 magasins répartis sur tout le territoire. C'est aujourd'hui, c'est cette proximité qui a fait notre force. Hein, c'est ce temps de proximité avec nos clients qui nous permettent d'être le premier distributeur d'Adidas Sport sur le marché français lié à cette proximité. Alors, au regard de l'e-commerce, bon, effectivement... C'est la question que naturellement on pose à chaque fois. Cette question elle est essentielle parce que pour moi, l'e-commerce et le physique, c'est deux modes de distribution. Nous, on appelle ça chez Intersport l'unicanal maintenant. On veut que cette expérience, cette expertise soit unicanal, quels que soient les canaux de distribution, puisse avoir une expertise identique. Et je crois que l'équation de la performance, parce que moi je traduis ça au travers de l'équation de la performance, peu importe le poids de l'un ou de l'autre, c'est le principal, c'est que la croissance soit toujours là, c'est le meilleur marqueur, c'est le meilleur élément qui nous permet de voir.
Dans l'organisation des magasins aussi, vous avez un modèle coopératif. Hein, vous avez près de 300, sur ces 1000 magasins, vous avez près de 300 entrepreneurs. Alors vous participez aussi à la rénovation des magasins. Je crois qu'il y en a 150 que vous rénovez par an, c'est ça le comptage.
Vous êtes vraiment fantastique.
Ouais, on compte bien. Voilà. Alors, on est chez Business,
vous comptez super bien. Donc effectivement, la particularité d'Intersport, c'est son modèle coopératif. Hein. On a regroupé, moi je représente 330 entrepreneurs hein, sur le marché français, 300 entrepreneurs qui investissent chaque jour, qui ouvrent chaque jour leur magasin avec leurs équipes en proximité et répondre aux besoins de nos clients. Donc moi j'appelle ça notre supplément d'âme. C'est ce qui fait qu'effectivement on restera plus performant parce que effectivement j'ai des entrepreneurs engagés hein, qui investissent et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 150 magasins qui sont rénovés par an. Hein. Je peux pas le traduire en millions d'euros parce que ça serait difficile à faire, mais c'est un véritable engagement et chaque entrepreneur défend son territoire, défend sa part de marché et défend son investissement au regard de ses clients.
Et est-ce que vous visez aussi d'avoir des plus petits magasins de proximité qui peuvent être des magasins alors, entre guillemets éphémères, voilà, de bord de mer, on va avoir quelques magasins voilà, sur la côte atlantique qui vont être vélo, sport nautique, des choses comme ça.
Alors,
être plus dans les centres-villes, avoir certaines antennes dans les centres-villes.
Non, je crois qu'aujourd'hui, quand vous avez 1000 magasins en France, vous êtes déjà en proximité.
Ouais, hein. Bien.
On est en proximité, on n'est pas forcément au bord de plage, mais on est en proximité, on est sur le trajet de chaque client. Donc aujourd'hui, à date, c'est pas une stratégie qui était retenue par l'enseigne.
Alors, votre parcours est très lié à l'histoire d'Intersport. Hein. Vous êtes fils d'un ancien président de coopérative, vous dirigez plusieurs magasins aussi. Vous avez participé aux instances stratégiques de l'enseigne pendant plus de 30 ans. Comment on réussit, voilà, avec l'historique que l'on a, à continuer à se transformer hein. Est-ce que c'est sur l'innovation produit? Est-ce que vous imaginez aussi, on voit parfois dans certains domaines de l'abonnement ou de la location, est-ce que ça c'est un business model que vous regardez? On pourrait parler aussi d'intelligence artificielle. Voilà. Comment on réussit à se transformer?
Bah, je crois qu'on réussit à se transformer, c'est parce qu'on aime notre métier. Parce que je crois qu'effectivement, quand on aime son métier, on aime s'adapter aux enjeux et à ses clients. Donc naturellement, la transformation, elle est quasiment innée en nous. Et je le rappelle, disons, des entrepreneurs qui sont chaque jour face aux clients. Donc, à découvrir le besoin de chaque client et comparer, le benchmarker, tout ce qui peut se passer aux alentours. Donc, ce mouvement de transformation, il est inné en nous. On a cette faculté d'adaptation parce que effectivement, c'est des investisseurs, c'est des entrepreneurs et c'est ce qui donne notre force. Je crois qu'aujourd'hui, au regard de tous les outils qui peuvent être embarqués, moi, je crois à la valeur humaine, à la proximité humaine. Et j'ai tendance à imaginer, chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, et comme toutes les entreprises, on l'embarque en fonction des différents sujets. Moi, je gardais sur cette intelligence émotionnelle. C'est émotionnel, cette affection, parce que au regard des consommateurs, les clients aiment Intersport. Ils ont une affection pour Intersport, pour cette proximité, pour cette reconnaissance. Parce qu'on, je rappelle qu'on a 15 millions de clients encartés chez Intersport. C'est pas le hasard. C'est le fruit d'un travail. C'est le fruit d'un engagement. C'est le fruit, on en parlait tout à l'heure, d'une certaine générosité à l'égard de nos clients. C'est tout ça qui a fait la réussite d'Intersport sur ces 15 dernières années. Juste un petit chiffre.
Oui.
Ça fait 15 ans de croissance discontinue, hein, chez Intersport.
C'est vrai qu'il y a des records en 2024, je crois, en plus.
Ouais. Record en 2024, record en 2025. On pensait passer les 4 milliards, mais on va y arriver, on va les passer l'année prochaine, c'est à peu près sûr. Mais, globalement, ce qui est important chez Intersport, c'est cette croyance, dans le marché, hein, cette faculté d'investir et de continuer à séduire nos clients.
Pierre.
Alors aujourd'hui, vous accompagnez déjà plus de 20 000 clubs amateurs en France. Comment on se perçoit demain Intersport? Est-ce qu'on initie et on est au cœur des communautés, des sportifs de sa région? Comment on s'imbrique dans cet aspect communautaire?
Je crois que l'avantage, c'est qu'on est tous issus d'une ville au départ. Hein, d'une ville plus ou moins grande où effectivement le distributeur de sport local, et je rappelle c'est la hutte au départ, il y a pratiquement un siècle maintenant.
On se souvient des panneaux près des stades.
Voilà. Et on est très engagé sur ce, puisque c'est plus de 20 000 clubs qui sont soutenus par Intersport, accompagnés par Intersport. C'est des cellules dédiées qui s'occupent des clubs et des collectivités. Donc c'est ce qui a fait notre différence et c'est ce qui a fait notre force et c'est notre histoire. Parce que l'histoire, dans la vie d'entreprise, on en parlait tout à l'heure encore, je crois qu'elle me paraît essentielle.
Une toute dernière question. Les sports, il y a des sports qui montent un peu plus en ce moment. C'est vrai que, alors, en parisien, on voit beaucoup de paddle arriver, le paddle, la raquette, hein, pas sur l'eau. Mais est-ce que, voilà, il y a des tendances que vous voyez qui apparaissent, qui disparaissent?
Alors, bien sûr, c'est un marché de tendance, le sport, c'est un marché qui s'adapte aux évolutions. Je crois que moi, ce que je veux vous dire, c'est que Intersport, c'est quand même le numéro 1 dans le running en France, c'est 4 chaussures sur 10 qui sont vendues en France. Le football, c'est 6 articles de football sur 10 qui sont vendus en France. Donc, effectivement, le vélo, c'est une part de marché importante. Donc, je crois qu'effectivement, oui, les tendances, elles existent. On s'y adapte, on fait le nécessaire. Mais je crois qu'il faut être assez convaincu que c'est les sports majeurs, et notamment le running, qui feront la différence. Ah oui. Dans les avenirs.
Et on aura une start-up dans un instant.
En plus.
Merci Gérard Carreau. Surtout, vous restez avec nous tout au long de l'émission. Vous allez intervenir plusieurs fois. Et on va passer à notre focus expert avec Claire. Claire Korleski, je rappelle, directrice générale de Média Performance. On vient de parler avec Intersport d'un marché très dynamique sur le sport, avec des enseignes qui cherchent aujourd'hui aussi à faire plus que vendre des équipements.
Alors, clairement, Frédéric, on voit que le magasin, il n'est plus seulement l'endroit où on vient acheter une paire de chaussures. On devient progressivement un lieu de rendez-vous. Est-ce qu'on peut dire un clubhouse, peut-être? Puisqu'effectivement, on voit Décathlon proposer des activités avec plus de 500 activités. On peut faire de l'athlétisme au Décathlon Village de Mérignac. On peut faire du badminton à Pornic. On voit que même Salomon se met dans l'organisation de, par exemple, la grève Sensa, de Paris-Meudon, donc une course de gravel running de différentes distances. Et puis vous-même, vous êtes aujourd'hui le numéro 1 de la location de ski. Donc on voit bien que le service a rejoint le magasin.
Et alors pourquoi cette transformation est-elle aussi stratégique pour les enseignes?
Alors parce que clairement, on se rend bien compte qu'un sportif engagé est un consommateur récurrent. Si on prend l'exemple du running, vous venez de le citer, d'après l'Observatoire Running 2026, un coureur dépense en moyenne 550 euros par an. hors inscription, hors course, donc on parle bien en équipement. Donc deux runners sur trois déclarent vouloir maintenir et augmenter leurs dépenses, puisqu'on sait que c'est une passion sur lesquelles je mets un budget. Donc pour les enseignes, l'enjeu c'est bien de capter effectivement ces envies de nouvelles chaussures ou de nouvel équipement. Donc on se rend bien compte que si l'enseigne est dans l'accompagnement de la routine ou de la pratique, elle se positionne bien pour prendre l'acte d'achat.
Et au-delà des grandes enseignes, on voit aussi émerger des formats plus spontanés, plus locaux. Est-ce que ça peut devenir de vrais leviers pour les marques, pour les commerçants ?
Alors, ce qui est clair, et en plus on en reparlera tout à l'heure, les communautés sportives deviennent des médias locaux. Si on cite Strava, qui indique aujourd'hui sur sa plateforme que les clubs de running ont été multipliés par 3,5 en 2025. À Paris, alors je vais bien le dire, mais il y a le Running Flan Club, c'est pas fan club, puisque là on est bien dans le but de courir de pâtisserie en pâtisserie pour aller chercher du flan. Donc c'est aussi quelque chose qui est en pleine expansion, puisque aujourd'hui ça rassemble quand même rien qu'en région parisienne plus de 4000 membres. Donc on se rend bien compte effectivement que les communautés et les enseignes sont en train de converger. Tout ça parce qu'il y a l'état d'esprit sportif qui est devenu communautaire.
Oui, il suffit de voir le nombre de coureurs aujourd'hui. Alors là, un petit peu moins avec la canicule, mais c'est vrai que ça pullule chaque week-end et même chaque matin, on en voit partout. Merci Claire, on marque une très courte pause, on va se retrouver avec notre start-up et on vous fera réagir aussi justement, Gérard, sur cette start-up qui nous rejoint tout de suite, qui s'appelle Arbat. C'est tout de suite.
Focus Retail, la start-up.
Start-up, club d'athlétisme, il va nous expliquer tout ça. Adam Belkacem, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de Arbat. On va en reparler. Puis toujours avec nous, évidemment, Gérard Leclerc, président d'Intersport. Et Claire Korlewski, directrice générale de Média Performance. Alors, on va parler de deux choses. La première, c'est le Social Run Club. Ça, c'est Arbat. Et exactement. Puis, il y a la partie start-up, c'est plutôt le lab, c'est ça? Expliquez-nous.
Exactement. En fait, j'ai d'abord créé un club, finalement, une association sportive qui s'appelle Arbat Running Lab. Donc, l'objectif, c'est de former des gens à la course à pied et de les faire performer le jour J. Et de là est née l'idée d'une autre start-up, donc le Lab, qui a vocation à rendre accessible des mesures de performance, donc qui est une start-up dans le sens où elle a vocation à grossir nationalement, internationalement, etc.
C'est-à-dire les données qu'on récupère avec sa montre et tout ça, vous allez les utiliser et expliquer aux gens comment les mieux utiliser ou même mettre en place des tests spécifiques sur la VO2 max.
Exactement.
Ça, c'est ça.
En fait, on permet aux gens d'avoir accès à d'autres types de données. Ouais. Les montres, elles donnent des estimations de certains types de données. Ouais. Comme la VO2 max, les seuils, l'économie de course. En fait, nous, on permet aux gens de les calculer directement dans un centre de performance pour le moment qu'on a à Paris. D'accord. Dans le 3e arrondissement, mais dont on a vocation de faire grossir.
Ça, c'est la partie start-up, le Lab.
Exactement.
Et puis Arbat, donc c'est le Social Run Club.
Exactement.
Qui lui consiste, là, il y a ces 350 membres à peu près, on s'inscrit, on se donne rendez-vous et on court ensemble par groupe, selon son allure et tout ça.
Exactement. En fait, c'est donc une nation sportive. Il y a des adhérents qui ont accès au stade mardi, mercredi, jeudi sur la piste. Et à côté, il y a un Social Run qui est tous les samedis matin. Qui est ouvert à tous en réalité, pas que pour les gens du club, qui réunissait l'année dernière en moyenne 225 personnes par run. Donc c'est à l'année, ça fait pas mal de gens et donc c'est un peu une fragmentation sur une course. Il peut y avoir 40 000 participants et en fait si on fait 52 samedi à 200 personnes, ça fait 10 000 exactement.
Ça commence très bien sur le business. Claire.
Alors moi, je vais effectivement aborder un aspect un peu avec une connotation business, parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous proposez aux marques de participer à cette aventure communautaire. Donc, est-ce que c'est plus efficace pour une marque d'être présent dans un run club que dans une campagne publicitaire classique ?
Je sais pas réellement. En réalité, elles font les deux encore.
Ouais.
Moi, ce que j'observe juste, c'est qu'elles tendent à augmenter leur pourcentage alloué aux parties communautaires. Donc globalement, moi c'est ça que je vois, c'est que globalement les marques, on est contacté par de plus en plus de marques, de plus en plus fréquemment, avec de plus en plus de budget finalement au fur et à mesure du temps. Je sais pas à quel point c'est plus intéressant pour elles que des campagnes traditionnelles, mais c'est quelque chose qu'elles développent et c'est même des métiers qu'on voit se développer au sein des entreprises. Il y a des spécialistes communautés justement qui se développent au sein de chaque marque parce que c'est un vecteur pour elles assez intéressant.
Gérard, pour vous, j'imagine que ça a raison de parler de proximité tout à l'heure. Il y a proximité des magasins, mais proximité client aussi, c'est aussi créer ce lien social, identitaire avec des sportifs selon leur passion.
Je crois qu'Adam a raison, effectivement les marques et nous les distributeurs on développe les différents axes de communication et je crois que le schéma communautaire est un schéma important qui qui va continuer à se développer et qui va prendre une grande ampleur. Mm-hmm. Alors je crois que ça y est, on a scellé notre partenariat avec Adam, tout est fait.
Et vous, ça veut dire, est-ce que vous pourriez avoir des vendeurs, des chefs de rayon chez vous qui pourraient être un peu les patrons, les animateurs de leur communauté, selon le sport,
Bien sûr, oui. Adam peut rendre ce service, pas de problème. Mais en plus, je crois que c'est déjà quelque chose qu'on organise.
Ouais.
Beaucoup de magasins organisent effectivement des événements, des rencontres. Ils vont courir avec effectivement les clients, nos clients, autour du magasin, dans une zone prédéfinie. Et c'est déjà quelque chose qui est très actif chez Intersport.
Claire?
Alors, les communautés, on l'a vu, peut-être que j'arrive parce que j'ai vu un événement de marque. Comment je passe au deuxième essai? Comment j'essaie d'engager les gens dans cette communauté, dans ce Run Club?
En fait, les gens envoient des mails finalement, et ensuite on leur propose des sessions d'essai dans des stades. Et à partir du moment où ils veulent rejoindre le club, finalement ils prennent une adhésion à l'année. Et les marques permettent plein d'avantages, plein d'événements. Par exemple, ce week-end, on a un événement avec une grosse marque, donc On, et les personnes du club ont un accès direct à l'événement. Donc effectivement, les marques permettent de donner des perks, des avantages aux gens du club, ce qui permet de rendre le club plus attrayant, en plus du produit de base qui est finalement courir sur une piste et s'entraîner pour des courses.
C'est une différenciation.
Exactement, c'est un vecteur de différence.
Claire parlait tout à l'heure du Run Flan Club, donc on court dans les différents. Ça veut dire que ça s'adresse aussi à d'autres marques que le sport. Quoi. Ça peut être des gens pour visiter des lieux ou des boutiques. On reste dans le domaine du sport avec Intersport, mais on peut imaginer des pâtissiers, une chaîne de pâtisserie.
Clairement, moi j'ai été contacté par des entités qui n'ont rien à voir avec le sport. En fait, le running, c'est finalement un des moyens les plus faciles de se réunir à grande échelle. Et donc, beaucoup d'entités utilisent le canal du running pour finalement fédérer des gens à un moment précis pour un événement. Plus facile de réunir 200-300 personnes pour un événement sportif avec un avantage à la fin, plutôt que pour une soirée ou quelque chose comme ça aujourd'hui. C'est un moyen facile, c'est un vecteur de fédération que de créer justement ces événements sociaux pour des marques. Je le vois comme ça.
Qu'est-ce qui fait qu'on les fidélise? Parce qu'on a compris, un événement par semaine, mais il peut y en avoir plus, mais il ne faut pas non plus assommer les gens de leur donner rendez-vous sans cesse, bien qu'on devienne vite addict selon les sports. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on se fidélise avec Arbat?
Pour moi, c'est une professionnalisation de la structure. Donc, c'est-à-dire justement des accès à des infrastructures comme des stades, accès à des coachs, en fait, accès à une amélioration de l'offre continue. Moi, je pense que c'est le vecteur de structuration et de fidélisation sur du moyen-long terme.
Et donc, justement, quand on parle moyen-long terme, donc aujourd'hui, la présence géographique, c'est aussi une ambition que vous avez, c'est de se dire comment je couvre un plus grand territoire. Et est-ce que si je couvre un plus grand territoire, je fais des événements d'un seul tout plutôt nationaux avec des marques, ou est-ce que je vais plutôt faire du multi-local avec les marques? Je ne sais pas si c'est bien expliqué. Mais...
En fait, au début, donc c'était en fin 2023, je savais pas exactement vers quelle direction aller sur le club, et en même temps que Paris, on avait monté une antenne New York, Londres, Sydney, et en fait c'est globalement quelque chose que je conçois pas actuellement. Pour moi, il faut être fort localement, et je vois finalement ça comme un trou noir, c'est-à-dire être très fort localement pour attirer les gens dans un endroit plutôt que plein de petites antennes, donc une constellation un peu moins forte. Donc moi, je vois plutôt les clubs, les social runs finalement, comme des entités très fortes localement. Et donc,
pas d'existence globale, mais que des existences locales très fortes.
Exactement. Et peut-être qu'il y aura un acteur à terme, une infrastructure, une plateforme, un autre Strava finalement, qui les réunira sur une plateforme commune et qui créera peut-être le lien plus facile avec les marques. Ça n'existe pas encore réellement, c'est ce genre d'operating system entre les communautés et les marques. Finalement, ça se fait toujours de manière assez archaïque.
Et les distributeurs.
Oui, exactement.
Et les distributeurs.
Et les distributeurs. En fait, marque et distributeur, je le vois finalement un peu comme une même entité aujourd'hui. Parce que Intersport, c'est une marque dans mon esprit.
Oui, parce que je...
Vraiment bien, toi.
Oui, parce que pour vous, une dernière question là-dessus, c'est un levier d'image, de visibilité locale, tout ce type d'association.
Mais c'est sûr, nous on essaie de collaborer avec eux, parce que je crois qu'effectivement notre métier, c'est avant tout de distribuer des produits, et je crois qu'ils ont l'expertise, ils ont le savoir, et surtout ils ont la passion, même si on en a beaucoup dans nos équipes. Et je crois que nous, ce qui est important pour nous, c'est de s'associer justement dans ce genre de démarche, parce que moi je pense que le sport a une valeur haute et forte, de rassembler les hommes et les femmes autour de vraies valeurs, parce que je crois que s'il y a un endroit où on n'arrive pas à se fâcher, c'est sur le sport, à part... Quand on joue au football peut-être, mais globalement le sport engage. Et moi j'étais encore l'autre jour aux 10 km de Paris. Et moi, je suis toujours impressionné par cette communauté, cette convivialité, alors que les gens ne se connaissent pas. Ouais. Ils osent se parler, ils osent échanger leur performance et s'encourager. Et ça reste fantastique.
Bah c'est l'une des valeurs du sport. Merci à tous les deux. Alors, on conclut très rapidement. Claire, un petit tour de l'actualité. Est-ce que la canicule peut influencer les soldes ?
Alors, c'est la grande question. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on sait qu'en cette période de forte chaleur, peut-être que le shopping ne sera pas la priorité des Français, à moins qu'ils ne se rendent dans les centres commerciaux. Quand on regarde effectivement les chiffres qu'on a de la dernière canicule en France, on se rend bien compte, donc ceux de 2019, qu'une enquête avait été menée en Île-de-France, 47% des commerçants qualifiaient le démarrage des soldes catastrophique, parce qu'ils avaient effectivement démarré dans cette période de canicule. Alors, on sait aussi que c'est une période pourtant où normalement les achats sont assez forts chez les consommateurs. Donc,
et on retrouve quoi parmi les produits, on va dire les crèmes glacées, les boissons rafraîchissantes.
C'est sûr qu'il y a des catégories qui ont profité effectivement de cet événement climatique. Quand on regarde aujourd'hui chez Picard, les ventes de glace ont bondi de 104% lors du dernier week-end. Dernier week-end de mai. Chez Carrefour, elles ont progressé de 52% par rapport à la même période de l'année 2025. On peut regarder aussi les ventes de boissons rafraîchissantes, sans alcool ou de l'eau, on est quand même encore à 13% d'après les chiffres de l'Insider Q sur le mois de mai.
Et puis ça, c'est pour l'immédiat, mais on peut aussi, derrière, on va acheter plus de ventilateurs, des piscines, des choses comme ça,
clairement,
des petites piscines en tout cas,
voilà,
dans le jardin.
Clairement, je pense que le consommateur français a complètement compris et on lui dit souvent que ce n'est pas un épiphénomène, que ça va se reproduire. Donc j'investis dans le ventilateur, j'investis dans la climatisation et je me pose la question de la piscine. Donc quand on regarde effectivement un certain nombre de chiffres, le ventilateur sont parmi les produits les plus sensibles à la météo et la vente a progressé de 50% en volume et 80% en valeur sur ce dernier période. Et l'intention d'acheter une piscine, en cette période de forte chaleur, en mai 2026, c'est plus 144% des Français qui ont l'intention de s'équiper avec une piscine.
Et on peut en trouver chez Intersport, bien entendu.
Tout à fait.
Eh bien voilà, bien merci. La boucle est bouclée, merci à tous les trois. Gérard Leclerc, président d'Intersport, merci infiniment d'avoir été avec nous sur cette demi-heure de Focus Retail. Claire Koralewski, directrice générale de Média Performance. Et puis Adam Belkacem, fondateur de Arbat et puis du Lab. On suivra évidemment tous les passionnés de running. Allez vous renseigner et inscrivez-vous surtout. Et puis courez surtout, parce que c'est pas tout de s'inscrire, faut aller faire du sport. Allez, excellente semaine sur BFM Business.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.